Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio RDL 103.5 et vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Et ce matin, avec Christine, bonjour Christine, et bonjour Francis à la régie.
Bonjour Francis au micro.
Et ce matin, avec Christine, et puis Francis aussi, nous recevons Émilie Wist, directrice de la compagnie On nous marche sur les fleurs. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors Émilie, c'est un grand plaisir de te rencontrer, parce que c'est quand même difficile de se vous voir, étant donné qu'on a travaillé ensemble, de te rencontrer ici, pour ce spectacle magnifique qui s'appelle Le Sanctuaire, qui se jouera, alors cette fois-ci écoutez bien, non pas à la Comédie de Colmar.
Oui, mais qui se jouera à la Salle Europe le mercredi 4 février à 19h. Et aussi, il y a une scolaire le 3 février qui peut être peut-être aussi l'occasion pour vous, si vous n'êtes pas disponible le soir, de voir le spectacle. Il faut contacter soit la Comédie de Colmar, soit la Salle Europe. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il vaudrait mieux aller vers la Salle Europe parce que à la Comédie de Colmar, il y a déjà beaucoup de d'abonnés et beaucoup de spectateurs qui ont pris leur place. Mais n'hésitez pas, il y en a encore, donc pour voir Le Sanctuaire, inspiré d'un très joli roman de Laurine Roux.
Oui, alors disons déjà ça, c'est que ce 4 février, d'après ce que j'ai compris, sortira également le roman graphique. Le même jour sortira le roman graphique de Jérôme Lavoine sur Le Sanctuaire, donc Le Sanctuaire partout. C'est-à-dire ce même jour, eh bien, on pourra aussi voir les images, mais nous allons voir d'autres images du Sanctuaire, n'est-ce pas Émilie ? Travail qui s'est fait à partir d'un texte qui a eu beaucoup de prix. Laurine Roux est aujourd'hui un peu connue, elle a passé assez récemment chez Trapenard, vous l'avez peut-être vu.
Et puis
Le Sanctuaire a eu d'énormes prix, dont celui des lycéens en 22-23.
Oui, et le Grand Prix de l'imaginaire aussi.
Voilà. Ouais. Alors, c'est un peu de la science-fiction. Oui, mais c'est aussi vraiment ce qui concerne les humains sur Terre, fondamentalement les humains sur Terre, n'est-ce pas ? Alors, Émilie, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, peut-être résumer de quoi il s'agit, pourquoi ça s'appelle le sanctuaire de quoi, de qui. De toute façon, c'est une histoire de montagne, parce que Laurine Roux, elle nous vient des montagnes, elle
Tout
connaît bien les
ouais.
Alpes.
C'est vrai, Laurine Roux, elle vient des Alpes et elle a inscrit le cadre de ce récit dans la montagne. C'est l'histoire, le sanctuaire, c'est l'histoire d'une jeune fille, Gemma, qui a à peu près 13 ans, son âge exact n'est pas donné, mais c'est une jeune adolescente. Et elle vit dans ces montagnes avec ses deux parents et sa grande sœur. Et on comprend qu'elle est née dans la montagne. Elle est... Donc ça fait à peu près 15 ans que cette petite famille s'est réfugiée dans cette montagne. Et ils sont isolés complètement du reste du monde. Et petit à petit, on dévoile, on comprend qu'ils sont arrivés là suite à un cataclysme en bas de la montagne. Alors, en l'occurrence, une pandémie aviaire. Les oiseaux sont devenus dangereux. Et ça a été le chaos. Et une grande partie de la population mondiale est morte de ce virus qui s'est transmis aux humains. Et pour les protéger, le papa les a emmenés dans cette montagne. Et
alors, ça... ce qui est assez incroyable, c'est que Laurine Roux a écrit ce texte en 2019. En gros, en 2019, c'était juste avant la Covid. Bon, il y avait encore la pandémie aviaire qui était dans toutes les têtes. Mais ce qu'elle a écrit à ce moment-là, eh bien, est un peu advenu, mais très vite. C'est là un sort du coup qui était inattendu.
Complètement, et c'est un prétexte à l'histoire. C'est-à-dire que le récit ne parle pas de cette pandémie, ne parle pas du côté survivaliste. La question n'est pas comment on va survivre dans la forêt. La question est comment on vit enfermé à quatre, en fait, dans un endroit aussi grand soit-il.
Le mot sanctuaire a en même temps une connotation un petit peu religieuse, ouais. Puisque c'est l'endroit où il faut respecter, c'est un endroit sacré, c'est un endroit où il y a des règles et une loi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette dimension sacrée du sanctuaire ? En fait,
il y a une notion d'inviolabilité aussi. Le sanctuaire, c'est le refuge.
Oui, un endroit à part.
Voilà.
Oui.
Et donc là, c'est vraiment dans ce récit-là, il y a le sens du refuge, de la protection. On est là à l'abri du reste du monde.
Ce qu'était l'Église pendant très longtemps,
tout
par
à fait,
rapport aux
aussi,
guerres.
Ouais, ouais.
Et là, c'est une sorte d'église familiale, quoi.
Tout à fait. Mais effectivement, régie par des règles, régie par des interdictions, et notamment l'interdiction absolue de quitter, de franchir certaines frontières de ce sanctuaire. Et dans les règles de vie, Gemma est assez libre de déambuler dans cette montagne.
Oui, il s'agit donc d'un père, d'une mère et puis de deux filles.
Ouais.
Gemma, qui a 13 ans, comme tu l'as dit.
Et puis June, la grande sœur, qui est un peu plus grande.
Ouais. Ouais. Qui, elle semble avoir connu le bas. Mais Gemma n'a rien vu, ne connaît rien. Elle ne connaît que la montagne.
Bah, elle est née dans cette montagne,
voilà.
Tout à fait. Et en fait, Gemma adore vivre dans cette montagne. Elle en est, elle est vraiment en symbiose avec les plantes, avec les animaux, avec la moindre sente, le moindre terrier. Elle connaît cette montagne comme un écrin. Dans les règles, la violence, c'est qu'un oiseau, on le tue, on le brûle. Parce que l'oiseau, c'est le virus, c'est le danger.
Oui, voilà. Alors, elle est en symbiose, oui. Mais à l'intérieur de cette symbiose, il y a le fait qu'elle chasse.
Et ah, mais ça fait partie de la symbiose.
Ça fait partie de la symbiose.
Oui.
Elle chasse et en même temps, elle tue. Donc, comme tu dis, les oiseaux, il y a d'ailleurs un élément extrêmement violent qui est le lance-flamme. Le père,
ouais,
avec le lance-flamme, va
cramer l'oiseau.
Cramer mort. Les oiseaux, ouais, en général.
Oui. Tout à fait. Et par rapport à la violence, dans ce texte-là, je ne parle pas de violence pour la chasse, parce qu'effectivement, la chasse fait partie de leur écosystème.
Ça fait partie de leur survie, tout
exactement,
simplement.
Exactement. Et Gemma, quand elle tue un animal, elle a un rituel de remercier l'animal, de remercier la nature, de remercier le don. Alors que les oiseaux n'ont pas droit à ça. Les oiseaux,
oui,
ils
puisqu'ils
sont, tués,
sont considérés
ils sont
comme voilà, les porteurs de mort, en fait, eux-mêmes.
Fait. Ouais.
Voilà.
Mais il se trouve qu'un jour, Gemma, je vous passe les péripéties, vous les découvrirez dans le spectacle, mais elle se retrouve en contact direct et physique avec un aigle. Il y a bagarre avec cet aigle, et puis bon, elle arrive à se sauver, et puis elle rentre au campement, et elle pense qu'elle va mourir, qu'elle va développer des symptômes et mourir dans les 48 heures, et en fait, il ne se passe absolument rien. Et à partir de là, tout son paradigme s'effondre, et elle se questionne sur la dangerosité des oiseaux, sur sur quoi elle a construit toute son existence, et le fait de ne pas sortir de ce sanctuaire. Donc à partir de là, cet endroit qui pour elle était comme un Éden se transforme en prison, en fait, puisque peut-être qu'en fait elle aurait le choix, peut-être qu'elle pourrait sortir.
Oui, mais... et peut-être que l'extérieur n'est pas aussi dangereux.
Exactement,
qu'on le lui a dit.
Exactement, et peut-être que les oiseaux ne sont plus dangereux. Et donc à partir de là, on va suivre Gemma dans sa quête de vérité.
C'est que peut-être on lui a menti, et je crois que c'est surtout ça qui t'a vraiment intéressé dans cette histoire. C'est comment quelqu'un peut être entièrement prisonnier, prisonnière, comment on est prisonnier d'un mensonge.
En fait, moi, ce qui m'a vraiment bluffé et ce qui m'a pogné très fort quand j'ai découvert le roman, c'est que ça m'a vraiment fait l'effet d'une petite bombe par rapport à notre monde dans lequel on vit, qui est un monde de plus en plus refermé sur les croyances. J'ai l'impression de retourner à un âge obscur où chacun est dans ses croyances. On n'a plus un socle commun qui pourrait être basé sur notamment évidemment la science et qui représenterait un socle de vérité commune. Et la notion même de vérité aujourd'hui, elle est broyée avec les notions de conviction, de croyance, c'est un espèce de blougi-boulga qui se mélange, et les gens se retranchent aujourd'hui derrière ça. On va être capable de dire, mais c'est ta vérité, c'est ma vérité. Non, la vérité, elle est une, et elle devrait faire socle commun. Ce qui n'empêche pas d'avoir des croyances, d'avoir des convictions, d'avoir des opinions. Mais je trouve qu'il y a un grand mélange. Et je trouve que ce roman est une belle métaphore de ce en quoi nous sommes, nous, citoyens, obligés de faire une démarche volontariste pour aller chercher derrière nos croyances, nos propres croyances, où se situe la vérité.
C'est une vieille histoire, puisque c'est l'histoire qui est presque à l'origine de la philosophie, en tout cas chez Platon, puisque tu cites souvent l'allégorie de la caverne. Et là, on a effectivement quelque chose comme une caverne, non seulement, de toute façon, Platon pensait que la caverne était le monde et qu'il fallait sortir, en tout cas le monde sensible, et qu'il fait le monde des sens en général, c'est-à-dire des croyances immédiates, et qu'il fallait sortir de ce monde sensible pour accéder à des idées beaucoup plus générales, beaucoup plus universelles, et des idées que lui, Platon, pensait éternelles. C'est d'ailleurs le mouvement vers la science, c'est-à-dire c'est le mouvement vers la vérité que de sortir de la caverne. Ce mouvement auquel tu fais référence, et qui est, parce qu'il y a aussi, il y a aussi une sorte de caverne qu'on traverse dans l'histoire elle-même, il y a un tunnel. Et vers ce tunnel, passer par ce tunnel, on va vers la lumière. Il y a tout un jeu entre la lumière et l'obscurité, où il y a des ombres, puisque dans l'histoire de la caverne de Platon, eh bien, on projette, et c'est le début d'un imaginaire qui pourrait être celui d'un cinématographe. On projette sur une paroi les ombres, et les gens croient ces ombres. Là, on a un peu quelque chose qui est similaire, c'est-à-dire le père a installé, et là, en tout cas, l'imaginaire du sanctuaire, c'est celui d'ombre dans son ensemble.
Oui, nous, on a souhaité, ça c'est un parti pris de mise en scène, on aurait pu représenter la forêt de plein de façons, cette montagne de plein de façons différentes. Nous, on a effectivement choisi de travailler avec de l'ombre, on a choisi d'évoquer en fait, et de laisser vraiment toute la puissance de l'imaginaire se déployer. Donc l'ombre permet de raconter notamment la forêt et la montagne tout à fait.
Pardon, tu as dit aussi que dans l'intérêt du sanctuaire, il y avait aussi une énorme sensualité dans l'écriture, c'est-à-dire un rapport, elle vit dans la forêt, dans la montagne, il y a un rapport très très fort aussi à la nature, et donc les sens sont sollicités énormément, et que dans l'intérêt que tu as eu pour le texte, il y a eu aussi la langue de Laurine Roux.
Tout à fait, moi j'ai vraiment adoré son écriture, et tu as raison de le dire, parce que c'est une langue extrêmement charnelle et sensorielle et sensuelle. Et quand on a fait le travail d'adaptation avec Francis notamment, on a dû assécher beaucoup cette sensualité, parce que c'est un roman de 140 pages. Il faut le réduire pour pouvoir le présenter dans un spectacle qui dure à peu près 1h05, 1h10. J'avais envie, moi, d'un spectacle court comme une flèche. Voilà, Gemma, elle tire à l'arc, et j'avais envie de retrouver cette... cette chose qui se déploie et qui frappe. Et donc, on a asséché un petit peu la langue, mais on a travaillé dans la mise en scène et dans nos parties prises de mise en scène à ramener justement cette sensualité, cette sensorialité, cette charnellité au plateau. Oui, on n'a pas les odeurs, mais j'ai essayé de travailler sur, on a le son, on a l'image, on a les nuances, tu parlais de lumière, on a quelque chose autour de la lumière, on a de la peau. Moi, j'ai le costume, on a travaillé le costume aussi pour faire voir de la peau, du muscle, de la chair.
Je reviens juste sur l'arrière-fond philosophique dont nous avons parlé. C'est que même chez Platon, puisque tu le cites, sinon...
Bien sûr, je le cite.
L'idée n'était pas celle-là, puisque c'est le paradigme le plus connu de la philosophie occidentale. Ouais. Puisque tu le cites, c'est qu'il y a chez Platon une grande douleur quand on passe de l'ignorance à la connaissance, c'est-à-dire qu'on souffre. Le passage pédagogique, puisqu'il s'agit d'une image de la païdéia, c'est de la pédagogie, pour aller du mensonge à la vérité, on souffre. Et cette souffrance est incroyablement présente dans le texte lui-même.
Oui, et puis il y a le prix à payer. C'est-à-dire que Gemma, elle va, alors je raconte le moins possible, mais évidemment, parce que c'est ça qu'on a envie de montrer, un chemin vers quand même une lumière et, comme tu le dis, une connaissance. Donc elle va accéder à un moment donné à cette vérité et comprendre ce qui s'est passé autour d'elle, et donc aussi accéder à son libre arbitre et à la possibilité de faire des choix éclairés. Mais il y a un prix à payer et ça va lui coûter cher. Mais elle accepte ce prix.
C'est la première fois, d'ailleurs, j'ai souvent commenté ce texte, et je ne l'ai jamais... Alors, par rapport à la science ou par rapport à... ce texte-là figure dans le cinéma, figure dans la littérature en général, mais j'avais jamais complètement pensé au passage de l'adolescence à l'âge adulte.
Ouais.
Or, finalement, ce paradigme vaut aussi pour ça, parce que dans la, comment dire, dans l'économie globale de cette histoire, il y a quand même la découverte de Gemma d'être une fille, une femme. Et au fond, elle a été toujours considérée par son père comme un garçon.
Mais oui, le papa, il a deux filles et la deuxième fille qui naît dans la montagne, effectivement, quelque part, il l'a fait grandir à son image, il lui transmet ses valeurs et elle est un peu un garçon. Voilà. Et
c'est d'ailleurs sûr. Terrible de se dire la scène de gymnastique qui et de chasse et d'entraînement qui est militaire, quasiment militaire, est très intéressante à ce niveau-là.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit Gemma devenir une jeune fille, une jeune femme dans ce récit. Ça passe par les règles aussi qui arrivent au milieu du récit, mais ça passe aussi par cette prise de responsabilité de sa part, de dire maintenant, je vais aller regarder derrière et je vais aller comprendre ce qui se passe.
Et peut-être c'est ça que j'ai trouvé intéressant, moi, puisque nous avons beaucoup discuté de ça quand nous avons, quand tu as réécrit le texte et quand nous l'avons fait ensemble.
Parce qu'il faut dire que c'est Francis Fischer qui a participé à la dramaturgie du spectacle.
Oui, donc on peut en parler.
D'où leur complicité.
J'étais assez intéressé par ce passage, au fond, à la question de la sexualité.
Ouais.
Qui est au cœur même finalement de ce rapport à l'aigle. Alors évidemment, pourquoi, comment, et parce que c'est un élément central.
Ben, ça fait partie de l'émancipation, en tout cas pour Gemma. Gemma, on la découvre dans l'enfance et puis on la laissera partir et on quittera le récit. Elle sera effectivement devenue une jeune femme en devenir. Et la sexualité, alors c'est pas direct, parce que avec l'aigle, je rassure tout le monde, elle va pas faire des choses. Mais néanmoins, il y a une forme dans le partage avec l'aigle. Effectivement, en tout cas, il y a une découverte de ce que pourrait être une sensualité
autre que celle que la famille
a
proposée.
Oui, parce qu'avec avec les parents et avec la sœur, elle est évidemment pas dans ce rapport-là. Et donc il y a personne autour, il y a pas d'humain, il y a pas ce que
l'aigle représente, l'altérité totale, c'est l'autre, l'autre même qui était dangereux et en même temps du coup qui est désirable aussi par sa puissance.
Oui,
sans doute. Mais il y a, alors bon, évidemment l'aigle, il y a pas d'histoire d'amour. Bon, si, une histoire d'amour dans la mesure où l'amour ou la sexualité, c'est dans la relation. Plus que dans et dans la relation à l'animal, il y a là quelque chose qui est absolument profond, qui fait du vivant, lié au vivant, et les oiseaux dans leur ensemble sont cette partie complètement vivante qui a été malencontreusement et mensongèrement considérée comme à l'origine de la pandémie.
Alors ça, c'est pas dit dans le roman, et nous, on ne le résout pas, parce que je trouve que c'est intéressant de pas forcément... En tout cas, ce qui est raconté, ce qui est transmis à Gemma, c'est que les oiseaux ont été dangereux et qu'il y a eu un chaos. S'il y a eu vraiment chaos, si tout ça est un mensonge, la question pourrait se poser. Moi, je me raconte que oui, il y a eu à un moment donné une vraie pandémie, un vrai chaos, et une vraie raison d'aller se cacher dans cette montagne. Même si aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais c'est vrai que c'est ambigu.
Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point effectivement, comme ce sont des récits qui ont été transmis.
Mais dès qu'il y a le mensonge, c'est la même chose avec les fake news. Ça peut aller tellement loin. On ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. C'était d'ailleurs un peu la raison pour laquelle Platon est intervenu, parce que c'était la situation de la cité grecque.
Et d'où je trouve l'importance d'un récit comme celui-là, parce qu'on est aujourd'hui avec en plus les algorithmes qui nous renvoient toujours les infos qu'on a envie de lire, qui sont en fait pas des infos d'ailleurs, des infox plutôt, et qui vont flatter nos croyances, et ça nous demande une clairvoyance et une honnêteté intellectuelle pour naviguer là-dedans et aller chercher vraiment la vérité qui se cache derrière. C'est vraiment difficile, et je trouve que cette bataille que mène Gemma, elle raconte bien ça.
D'accord, alors on va écouter Blackbird des Beatles, qui est une chanson qui, je pense, est tout à fait adaptée à
qui parle d'émancipation.
Ouais.
Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Vous êtes sur Radio RDL. Vous écoutez Coup de théâtre de la Comédie de Colmar ce matin avec Christine. Nous faisons une rencontre avec Émilie Wyst à propos de son prochain spectacle qui s'appelle Le Sanctuaire, une mise en scène d'un texte d'un grand roman de Laurine Roux. Et Le Sanctuaire, nous venons d'en parler très longuement. Cela se jouera, n'est-ce pas Christine ?
Cela se jouera à Salle Europe le mercredi 4 février à 19h. Le 3 février, il y a l'après-midi, une scolaire. Et si vous n'arrivez plus à avoir de place pour le 4, vous pourrez essayer d'y aller le 3. Je rappelle aussi que ce spectacle, vous pouvez le voir par exemple le 13 février à l'espace 110 à Ilzac. Et qu'il y a des dates aussi lors du Festival Momix. C'est d'ailleurs une collaboration entre la Comédie de Colmar, la Salle Europe et le Festival Momix.
Oui, alors... On est vraiment heureux de te revoir parce que quand même, c'est toi, Émilie, qui porte complètement ce texte. Et ça, c'est une performance incroyable parce que tu as à la fois Gemma et tu as aussi les autres personnages sur une scène de forêt, de haute montagne, et puis on y croit. Alors, on y croit vraiment. J'ai eu la chance de voir la première déjà il y a un moment. On y croit vraiment parce que ce n'est pas si simple sur une petite scène de théâtre de donner l'impression qu'on est en très haute montagne avec des pics, avec, je dirais, non seulement la forêt, mais aussi la glace, les rochers, etc., etc.
Mais effectivement, c'était un peu une gageure de trouver la meilleure façon pour nous de représenter ça. Alors, dans les parties prises, j'ai écarté moi d'emblée parce que ça me paraissait presque trop facile. Je ne voulais pas de vidéo. Parce que la vidéo, c'est un média du théâtre qui existe, qui fait des très très belles choses. Mais sur ce texte, je voulais vraiment faire un spectacle artisanal avec nos moyens... originels, on va dire, du théâtre. Euh, et, euh, Et je pense qu'on a cette chose incroyable, c'est basique de le dire, mais c'est vrai, au théâtre, c'est l'imagination. C'est qu'en fait, il suffit d'évoquer, il suffit d'esquisser, il suffit de donner le trait et l'impulsion. Et en fait, les spectateurs viennent avec nous au bout du monde, dans la plus haute montagne et dans les plus hauts glaciers.
Oui, vraiment l'espace, on y croit, mais on est quand même dans la forêt. Et c'est ça qui est très beau dans la forêt avec les animaux, donc de toute façon, mais aussi avec les oiseaux. Et il y a mille manières de le faire. Et puis, il y a le texte que tu portes. Moi je trouve vraiment parce que c'est un seul en scène. C'est un seul en scène de plus d'une heure. Et on va dans tous les sens. On rêve, on voit la lumière, on voit l'ombre. On est à l'intérieur de cette terrible montagne, il y a le sel, il y a tout, c'est-à-dire tout est visible à partir de ta parole. C'est quand même formidable.
Oui, alors moi, c'est pas seulement la parole, je pense aussi que c'est un peu une marque de fabrique pour avoir travaillé avec toi. Tu aimes beaucoup utiliser les moyens du théâtre et des éléments, là en l'occurrence il y a du bois, mais il y a aussi des éléments que tu fais travailler au plateau véritablement pour symboliser, pour figurer des choses. Oui. Et ça fait partie aussi de ton talent de création. Et là, tu es bien sûr accompagné, très bien accompagné, par Manuel Bertrand dans la mise en scène et par d'autres personnes qui vont travailler sur le son. Alors, tu vas peut-être développer ces collaborations.
Oui, alors bien sûr. Alors, au niveau... je vais arriver au son parce que le son, c'est peut-être l'élément le plus important. Mais juste avant, je peux citer effectivement le travail sur la scénographie. On a choisi un élément scénographique assez sobre, j'en dis pas trop, mais qui est comme un terrain de jeu en fait. Qui est comme un terrain de jeu pour raconter l'histoire. Et c'est avec Antonin Bouvray qu'on a travaillé sur la scénographie. Il y a un peu de machinerie aussi, quelque chose qu'on voit plus tant que ça au théâtre. Mais donc il y a des mouvements, il y a des choses qui bouge à partir des perches, voilà, ça faisait partie des envies.
Comme ça bouge dans la tête de Gemma.
Comme ça bouge exactement dans la tête de Gemma. On a travaillé avec de l'ombre pour suggérer, comme on l'a dit tout à l'heure, la forêt et d'autres éléments. Et puis il y a un élément, donc le son, qui est l'élément principal qui est parti. En fait, la question pour moi, c'était comment représenter l'aigle, qui est un des personnages principaux de l'histoire. J'avais envie que cet aigle, il puisse presque être surnaturel, puisqu'on parlait tout à l'heure de la dimension légèrement science-fictionnesque du récit. J'avais envie que cet aigle, il puisse faire 15 mètres d'ouverture, enfin qu'il envahisse tout l'espace, puisque c'est vraiment par lui que va venir le mouvement de Gemma. Et j'ai réfléchi beaucoup à une marionnette, à de l'objet, à de l'ombre aussi. Et puis, il y a quelque chose pour moi qui ramenait toujours quelque chose de terre à terre et qui diminuait la représentation. Puis à un moment donné, c'est un magicien d'ailleurs qui m'a soufflé ça, parce que la magie fait partie des médias que j'ai interrogés. Il y en a un tout petit peu dans le spectacle. Et c'est lui qui m'a parlé du son. Il m'a dit, mais tu sais, le bruitage. Et en fait, ça a fait tilt parce qu'effectivement, j'ai tout de suite mesuré à quel point l'évocation par le bruitage, on ramène la sensualité. Et en plus, on envahit, tout d'un coup, le son permet d'imaginer l'oiseau comme on veut l'imaginer, avec toute sa dimension. Et donc, j'ai travaillé avec une bruiteuse qui s'appelle Caroline Le Forestier, qui a beaucoup travaillé sur Radio France, dans des fictions radiophoniques, qui a travaillé pour le théâtre aussi, par ailleurs. Et qui m'a accompagnée sur la découverte de... C'est un vrai art, c'est une vraie discipline artistique, le bruitage. Et elle m'a accompagnée, donc le sanctuaire est nourri de bruitage en direct que moi je manipule au plateau. Donc au départ, je voulais qu'elle soit avec moi sur scène. Je voulais pas être toute seule. Et puis en fait, on s'est rendu compte en répétant que Gemma, il fallait qu'elle soit toute seule en fait pour raconter tout
Gemma
ça.
Gemma est toute seule pour raconter cette histoire, le sanctuaire. Une magnifique mise en scène d'un roman de Laurine Roux. Et cela se joue à la salle du spectacle. à la salle de spectacle Europe le 4 février.
À 19h, attention, c'est à
19h. À 19h. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup, Émilie.
Et ça sera un plaisir de revoir ce spectacle. À bientôt.
À bientôt.
Vive le théâtre.